Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview au studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Ophélie Vigarier. Bonjour.
Bonjour Yves.
Et de Virginie Cointepas. Bonjour.
Bonjour Yves.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous parler des vacances de Bleuets et Coquelicots proposées en avril 2024. Ça s'adresse aux familles, aux enfants et aux ados. Donc, il y aura plusieurs dates le long de ce mois d'avril, surtout pendant les vacances d'avril, hein, j'imagine. Et on va présenter ce programme, mais avant tout, on peut peut-être aussi parler de cette idée des vacances de Bleuets et Coquelicots. Qu'est-ce qui vous a incité à proposer ce module ?
En fait, y a une personne qui s'appelle Claire Comarmont qui s'est installée depuis cet hiver dans un local rue de l'Armellerie à Die. Donc c'est 28 rue de l'Armellerie, donc dans cette rue passante, vraiment dans le super centre de Die. Et Claire, elle a souhaité, autour de ce lieu où elle propose des choses qui sont plutôt autour de la médiation, de la communication bienveillante, ouvrir ce lieu pour des propositions vraiment vers les familles, les enfants, les ados. Et elle a cherché à rassembler autour d'elle des personnes qu'elle connaissait, qui étaient partantes. Et on s'est retrouvés donc à quatre, à chercher à imaginer comment on créerait du lien entre chacune de nos propositions et puis de regrouper ça sous cette histoire de temps de vacances scolaires et de créer des moments d'échange un peu particuliers entre les parents, les enfants, les ados. On connaissait chacune Claire par un biais différent, Claire Comarmont. Et pour certaines, on se connaissait entre nous, mais on s'est un peu rencontrés. Donc on anime chacune un des ateliers. Et on a lancé ça en février. Et donc là, c'est comme la deuxième édition sur les petites vacances.
Associée donc à Ophélie Vigarier, vous-même, Ophélie, qu'est-ce que vous proposez au sein des vacances de Bleuets et Coquelicots ?
Alors moi, je propose le samedi 27 avril après-midi un atelier de 3 heures pour découvrir les règles et le cycle menstruel. Donc moi, je suis éducatrice menstruelle certifiée Kiffe ton cycle. On pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Et en fait, je propose donc un atelier en binôme, enfants, ados et parents, donc parents concernés par le cycle menstruel, pour partir à la découverte des règles et du cycle. Et donc, ça s'adresse à des enfants à partir de 9 ans jusqu'à 13 ans, avec un parent. Voilà. Et donc, c'est un atelier qui dure 3 heures, avec des jeux, des expériences, pour voir ce que c'est les règles et le cycle menstruel. Et avec l'idée de pouvoir juste déjà en parler, c'est déjà hyper important, parce que ça reste quand même un sujet tabou. Et puis aussi pour rassurer les enfants et les ados.
Alors, justement, je regardais aussi cet aspect de l'éducation à la sexualité qui est obligatoirement, normalement délivrée par l'éducation nationale à l'adresse des enfants, qui est mise à mal puisque, selon un bilan, il y aurait seulement un élève sur cinq qui suit les 3 séances annuelles de cette éducation à la sexualité. Est-ce que pour vous, ça a été aussi un motif de proposer cette alternance à ce manquement ?
Alors déjà, il faut savoir que moi et les autres éducatrices menstruelles, parce qu'en France, on est 80 à s'être formés auprès de Kiffe ton cycle, on ne se substitue pas à l'éducation affective et sexuelle qui est proposée dans les établissements scolaires dès la primaire jusqu'à la fin du collège, il me semble. Peut-être même au lycée, je ne sais pas. On ne se substitue absolument pas à ça. On arrive en complément. Et de ce que je comprends de la situation par rapport à ces heures obligatoires, en fait, ils sont pas toujours simples à mettre en place parce que les professeurs, ça grignote aussi sur leur temps d'apprentissage et que c'est pas toujours simple pour les établissements de le mettre en place. Effectivement, il serait souhaitable que tous les enfants puissent bénéficier de ces temps-là. Et les règles, le cycle menstruel, c'est une toute petite partie de ce qui est, de ce qui est approché dans ces temps-là. Et avec Kiffe ton cycle, on a envie que qu'il y ait plus de temps dédié à la transmission d'informations sur le cycle. Et c'est pour ça qu'on s'est formé, nous, en tant qu'ambassadrice, pour proposer ça. Pour le moment, voilà, on est en train de s'organiser au niveau national, de créer une association française pour l'éducation menstruelle, pour justement aussi pouvoir intervenir dans les écoles et les collèges, en mixité ou non. Ça dépendra voilà, des différentes formules. Et qu'en fait, ce soit aussi reconnu comme d'utilité publique, de parler du cycle et des règles. Parce que bah, on voit bien que c'est encore quelque chose dont on parle un peu à demi-mot. Et on sait très bien que les tabous, bah, ça génère des... soit un manque d'information ou de la honte, de la peur, voilà, ces choses-là.
D'ailleurs, Kiffe ton cycle, peut-on présenter cette organisation ?
Oui, tout à fait. Donc, Kiffe ton cycle, c'est donc on pourrait l'appeler un mouvement qui a été lancé par une femme qui s'appelle Gaëlle Baldassari, qui est basée en Bretagne, qui a écrit d'ailleurs deux ouvrages, Kiffe tes règles et Kiffe ton cycle. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses à Kiffe ton cycle. Il y a des programmes en ligne sur différents sujets autour du cycle menstruel. Il y a des sommets aussi en ligne, donc pareil, sur des sujets autour du cycle menstruel. Et des ateliers en présentiel qui sont assurés par les éducatrices menstruelles formées au préalable auprès de Kiffe ton cycle. Donc là, on est présente sur tout le territoire. On est 80 en France. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes, et je dirais à toutes les personnes, parce que le cycle menstruel, même s'il y a la moitié de la population qui le vit dans son corps, il concerne tout le monde, puisque c'est grâce au cycle qu'on est tous sur Terre. Et donc de permettre à tous et toutes d'avoir des informations, qu'il puisse y avoir du partage autour de cette réalité physiologique. Et voilà, tout simplement.
Est-ce que pourquoi cette limite justement de cet atelier à 13 ans ?
Alors en fait, en tant qu'éducatrice menstruelle, je pourrais proposer toutes sortes d'ateliers pour aussi des adultes. Je pourrais proposer des ateliers sur la ménopause, la préménopause, que adultes, que enfants. Voilà. Moi, j'ai décidé pour le moment, parce que donc ça, c'est une activité que j'ai en plus de mon activité salariée, de me focaliser vraiment sur les jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte avec les autres éducatrices menstruelles, qu'entre 9 et 13 ans, c'était l'âge idéal. À partir de 13 ans, il y a un tout petit peu plus de réticence de la part des ados, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui touche à l'intime. Et à partir de 9 ans et jusqu'à 13 ans, il y a quelque chose d'assez... c'est plus facile, en fait, tout simplement. Voilà.
Alors, ce sont des ateliers en binôme, hein, donc avec la présence d'un parent.
Oui.
Ça, c'est aussi important qu'un parent puisse être aussi, en quelque sorte, formé.
Oui, alors en fait, effectivement, j'ai dans l'idée aussi de proposer des ateliers sans les parents, parce qu'il se passe tout à fait autre chose quand il y a juste les enfants et les ados. Mais là, pour le moment, j'avais envie que ce soit partagé avec les adultes, parce que déjà, les adultes ont des informations, ont des connaissances, ont de l'expérience, et je m'appuie dans mes ateliers aussi sur leurs connaissances, leurs expériences, et qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre aux jeunes générations. Et puis aussi, au sein de la famille, ça crée une amorce de discussion, parce que c'est pas dans toutes les familles où on parle des règles. Donc ça amorce la discussion, et puis après ça se prolonge à la famille, alors peut-être aussi avec les frères, avec le papa, avec... voilà, donc c'est aussi une façon de donner un début de quelque chose pour que ça se poursuive après.
Alors, c'est aussi une approche pour rassurer l'enfant de ce qui va advenir, mais aussi, est-ce qu'il y a un moment aussi où le tabou est combattu avec contre certaines idées reçues sur les cycles ?
Eh bien, oui, en fait, l'idée, quand on transmet des informations qui sont fiables, forcément... pour moi, ça participe à lever les tabous. Et d'ailleurs, je vous ai préparé des petites questions. Et Virginie, si tu veux aussi. Voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qui peut se dire dans les ateliers. Par exemple, Yves, Virginie, est-ce que vous savez comment on appelle les premières règles ?
Non, les premières règles.
Et donc, on appelle les premières règles les ménarches. Ça vient du grec « men », moi, et « arché », début. Et les premières règles, est-ce que vous savez à peu près à quel âge elles arrivent ?
Ben, j'ai l'impression que les jeunes filles aujourd'hui, ça peut être assez tôt, je dirais 10 ans. Ça se pourrait presque qu'il y en ait où ça arrive avant, je me demande.
Moi, je dirais 11, 12.
Alors en France, la moyenne, c'est 12 ans et demi, mais ça peut se mettre en place à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans. Si ça arrive avant 10 ans, bah, on va être sur une puberté précoce qui peut aussi alerter et on peut se poser des questions. Alors après, j'en ai une aussi qui est sympa, c'est est-ce que vous savez la quantité de sang qu'on perd à chaque cycle ?
Moi, j'ai l'impression que ça peut varier beaucoup d'une femme à l'autre. Sur tout le cycle ?
Ouais, sur un cycle, ouais.
Je sais pas. L'équivalent d'un grand verre, j'en sais rien. Non, moi.
Je dirais un litre, peut-être.
Un litre ?
Eh ben non. On perd une tasse à café expresso. Entre 50 millilitres et 80 millilitres. Au-delà de règles hémorragiques.
Après, comme dit Virginie, c'est selon aussi les femmes.
Oui, ça va varier, mais vu que la durée du cycle, elle varie aussi pour chaque femme, enfin la durée des règles, elle varie, de manière générale, on va quand même toutes se retrouver sur une tasse à café. Mais si c'est plus, ça peut questionner. Si c'est moins, a priori, il n'y a pas de souci. Et j'en ai une petite dernière. Parce que celle-là, je l'aime bien aussi. Est-ce que vous savez combien de cycles une personne menstruée vit dans sa vie en moyenne ?
Ah, il faut faire des calculs.
Je crois que c'est environ 400, il me semble.
Ah ouais, vous êtes pas mal, Yves. Ouais, on est à 450 en moyenne. Donc là, ça va dépendre du début des règles et puis de la ménopause aussi. Ce qui, mis bout à bout, ça fait à peu près 5 ans de règles. Voilà, et le petit dernier, parce que vraiment celui-là aussi, je l'aime bien. On a souvent l'idée reçue qu'un cycle menstruel, ça dure 28 jours. Et en fait, ça ne concerne que 13% des personnes menstruées. Un cycle varie entre 25 et 35 jours. Et en plus, d'un mois à l'autre, ça peut encore varier la durée. Voilà. Donc en fait, c'est ce genre de choses dont on va parler. Mais tout ce que je viens de vous dire là, on va l'expérimenter pendant les ateliers. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour donner un cours. C'est vraiment à travers des manipulations, des visuels, qu'on va aller regarder tout ça. Par exemple, pour la quantité de sang, je vais donner de l'eau qui a été teintée de rouge aux jeunes filles et aux mamans pour qu'elles essayent et qu'elles voient voilà. Parce qu'effectivement, on ne sait pas un litre, comme vous avez dit, un verre, tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis après, on parle d'autres choses. Hein. On parle des différents signes de la puberté, des différentes phases du cycle, le sang, d'où il vient, quelle est sa texture, la quantité, la couleur, les odeurs. On parle des fluides vaginaux. Moi, j'utilise vraiment les mots. Donc, les fluides vaginaux, on a l'habitude de parler des pertes blanches. Mais là, on va apprendre ce que c'est la glaire cervicale. On va parler de l'anatomie de l'utérus, de la vulve, des protections périodiques, des inconforts. Et aussi de la douleur, parce qu'on a beaucoup intériorisé que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles ou à différentes phases du cycle. Ben, en fait, j'en suis pas certaine que ce soit normal, donc on parle de ça aussi.
D'ailleurs, ça a été rejeté par l'Assemblée nationale, un projet de loi sur la reconnaissance des douleurs menstruelles dans l'activité salariée.
Oui, il y avait un projet de loi qui a été déposé par un groupe socialiste et écologique pour la mise en place d'un congé menstruel dans les entreprises, pris en charge par la CPAM avec donc pas de jours de carence. Et il a été rejeté pour différentes raisons. Donc il y a un des arguments, c'était aussi que ça pouvait être discriminatoire envers les femmes. Voilà, donc c'est en cours. Il y a déjà des structures qui l'ont mis en place et je tenais juste à le dire, donc, parce que moi je suis salariée à la corderie du Pays d'Iwa et à la corderie du Pays d'Iwa, il est mis en place le congé menstruel de 2 jours. Donc la salariée n'a pas de jour de carence et peut, pendant 2 jours par mois au maximum, se reposer si elle a des douleurs. Donc ça concerne l'endométriose, mais aussi tout simplement des douleurs qui vont être avec un certificat médical annuel. Voilà.
Voilà une mise en découverte de ce qu'il y aura ce samedi 27 avril. On revient aussi au mardi 16 et 17 avril avec Virginie Cointopa. Vous proposez donc un atelier conte et yoga. Alors qu'est-ce que ce sera ? Il y aura des histoires, des postures et des jeux. Donc on peut peut-être détailler un peu ce déroulement.
Oui, je propose cette formule. Je ne l'ai pas beaucoup proposée dans le Diwa. Un tout petit peu. il y a maintenant quelques années, je crois que c'était en 2020-21. Et c'est des choses que j'ai plutôt fait en dehors du Diwa, parce que c'est pas... Moi, j'ai l'habitude de raconter des histoires. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues sur des moments où je raconte des histoires. Depuis le printemps dernier, j'avais développé des balades contées. Je reprendrai là au beau jour, à 10. Et là, sur ce moment-là, c'est vraiment l'idée d'un temps d'atelier, donc où les personnes qui vont venir ne vont pas juste écouter et juste être spectatrices. Mais mon envie, c'était d'avoir un moment où je propose aux gens d'être vraiment en action. Donc ce que j'amène, c'est toujours ce que j'aime beaucoup, des histoires qui au départ sont des histoires anciennes, traditionnelles. Il y a souvent peut-être en écho à ce que raconte Ophélie dans les histoires des moments de passage, des moments de changement, des moments un petit peu symboliques aussi dans la traversée que vivent les personnages. Et à partir de cette histoire, de venir vraiment un peu jouer. Là, j'invite des parents et des enfants. Et donc, de venir aussi vraiment se côtoyer physiquement. Je me rends compte que être dans cette très grande proximité physique, les parents et les enfants, quand les enfants sont très petits, c'est très naturel. Et finalement, des fois, quand les années passent, il y a plein de proximité parent-enfant. Mais là, de venir oser se mettre en jeu un peu les uns proches des autres, c'était ça l'envie, d'une manière qui soit vraiment très, très simple. Il n'y a aucunement l'idée de bien faire et je propose quelque chose qui est très imagé en fait. Je mets le mot yoga, mais parce que dans le yoga, on a beaucoup de postures qui viennent de la nature, qui viennent des animaux, des éléments de la nature. Et moi, à partir de l'histoire, c'est beaucoup ces fils-là que je vais tirer. Et là, j'ai choisi, dans ce projet-là, des vacances de bleu et coquelicot, de venir aussi trouver un peu un écho à la saison. Donc en février, j'avais pris une histoire qui était plus en lien avec l'hiver. Il y avait une question de garder le feu. Il y avait une jeune fille qui était comme gardienne du feu. Et là, je suis sur deux histoires qui sont plus en lien avec le printemps. Donc, il va y avoir une histoire qui s'appelle Isunboshi, autour d'un petit garçon qui va devoir partir faire tout un périple. C'est une sorte de tompus, Isunboshi, mais japonaise. Et une autre histoire, romarine. Au départ, c'est une plante et puis ça va finalement pas être vraiment une plante. Ça... Je dévoile pas tout, mais voilà, c'est pas qu'une plante, Romarine.
Cette proposition sur ces deux journées, est-ce qu'il y a un lien entre tous ces ateliers qu'on pourrait peut-être mettre en évidence ?
J'ai l'impression, Claire nous a transmis, Claire Comarmont, quelques phrases où elle dit qu'elle aime explorer ce qui se joue dans une relation et en prendre soin. Venir comme observer la façon de s'exprimer, d'écouter. Et en tout cas, j'ai l'impression que il y a aussi Marie Pouillot qui est avec nous dans ce projet. Il me semble, et dans les échanges qu'on a eus ensemble, qu'on aurait envie toutes les quatre d'être sur une sorte de soin du trajectoire de l'individu, donc depuis l'enfance jusqu'à plus loin, et de soin peut-être sur la relation. Là, quand j'entends Ophélie, il y a quelque chose dans cette jeune adolescente de comment ça se passe et comment ça pourrait se passer avec sincérité, avec honnêteté. Et c'est peut-être ça qui a fait que, cette chose commence à exister sur ce lieu-là.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Ce jeudi 18 avril, il y aura cette fabrique Ta boîte à colère. Ça s'est proposé donc par Claire Comarmont, et qui est médiatrice et exploratrice de la colère. Ça, c'est, elle a travaillé vraiment sur ce sujet, sur la colère. Est-ce qu'elle en a établi des textes, une thèse ?
Alors non, elle n'a pas établi de thèse, mais elle a écrit une BD qui est très intéressante. D'ailleurs, tu te souviens, toi, Virginie, du nom ? Les horizons.
Il y a quelque chose autour de aller-retour.
Aller-retour, ouais. Donc il y a une BD qui est d'ailleurs, on peut la trouver dans son local, voilà. Et Claire, elle propose des stages, des médiations, des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs pour justement aller explorer ce que c'est la relation, ce que ça peut être le conflit, et donc les émotions en général. Et la colère, là, elle a décidé pour les vacances de Bleu avec Coquelicot de faire un zoom sur la colère. Et de comment, justement, la colère, en fait, c'est une émotion comme une autre. et comment on peut accompagner cette colère, notamment auprès des plus jeunes, parce que là, c'est à partir de 6 ans. Et à travers la fabrication de la boîte, il y a aussi une prise de recul, une mise en abîme, et de pouvoir la regarder, cette colère.
C'est une boîte concrètement fabriquée par chaque enfant ?
Les enfants, en fait, doivent apporter une boîte à mouchoirs en carton. Et ensuite, ils vont travailler dessus avec Claire, Valet, voilà, va animer tout ça pour que cette boîte se transforme.
Et ça, c'est donc le jeudi 18 avril, c'est en matinée ?
Oui.
Et avec la présence de parents, peut-être aussi, pour cet atelier, ou c'est de l'ordre plus intime avec l'enfant ?
Claire propose que les parents soient là et que ce moment-là soit vécu en présence des parents. Peut-être que les parents ont aussi des colères.
Et puis c'est aussi, comme on dit souvent, pendant les périodes, il peut y avoir un caractère un petit peu compliqué. Et dans ce cas-là, c'est aussi une pédagogie d'apprendre à l'enfant de ce que ça peut produire parfois.
Oui, j'imagine, notamment avec la boîte à colère, il y a quand même l'idée d'aller... comment j'exprime ma colère ? C'est-à-dire, est-ce que la colère devient violence ? Et là, ça va commencer à poser des soucis dans la relation, et même envers soi-même, hein, parce que la violence, elle se retourne aussi contre soi-même. Donc, est-ce que la colère... comment on exprime la colère ? Je pense que c'est ça que Claire explore, en fait. La colère, en fait, elle est légitime. Après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'elle vient dire de ce que j'aurais besoin ? Et qui peut être un besoin extrêmement important, et peut-être que je le transforme en colère parce que je pense que ça va gêner l'autre, mais il y a sûrement peut-être un moyen de que ça trouve sa place.
Et puis, on passe toujours ce jeudi 18 avril avec ses contes et papiers découpés. Ça, c'est proposé par Marie Pouillaude. Pour jeudi, donc, ça sera sur le thème de l'oiseau. Et la semaine suivante, ça sera sur le thème du hérisson. Donc, il y aura des adultes et des enfants à partir de 4 ans. Et qu'est-ce qui sera proposé pour cet atelier avec ces papiers découpés ?
Marie, elle est illustratrice. Elle a publié pas mal de livres, qui sont à chaque fois des livres illustrés, où elle utilise beaucoup la technique du papier découpé. Donc elle crée vraiment des décors entiers vraiment merveilleux avec plein de couleurs et plein de matières. Il y a vraiment plusieurs albums qu'elle a publiés. Elle est aussi connue ici par les gens du Diwa parce qu'elle anime beaucoup d'ateliers auprès de la toute petite enfance. Souvent avec le relais d'assistante maternelle ou un projet qui s'appelle Bulle d'éveil. Et là, elle amène un moment d'histoire. Elle utilise beaucoup de supports dans ses histoires. Donc, elle va amener comme un petit décor ou vraiment tout ce côté plastique. Et un moment où les parents et les enfants vont fabriquer ensemble quelque chose. Elle amène plein de matériel, on n'a rien à amener. Et on vient vraiment comme fabriquer une petite production. Et donc là, en lien avec le printemps, elle a proposé le thème de l'oiseau et le thème du hérisson.
Il n'y a pas de corrélation entre vos ateliers, Virginie et Marie ?
Il n'y a pas de corrélation, en même temps on se connaît. Et puis là, on s'est un peu coordonnés. Je dirais le lien, c'est que chacune, on met quelque chose un peu en lien avec le moment de l'année où on est, la saison. Moi, je suis plus une conteuse dans le corps. Et Marie, elle manie plus de la matière, des objets. Et on... Voilà. Oui, on se connaît.
Les vacances de bleuet et coquelicot, ces deux fleurs symbolisent un peu cette période d'avril ?
En fait, le nom bleuet et coquelicot, c'est le nom de l'association de Claire Comarmont. Et quand on a cherché un peu un nom pour illustrer ce propos, on a pensé au nom de cette association.
Oui, parce que la salle, en fait, qui se trouve 28 rue de l'Amélie, n'a pas de nom. Et en fait, en rigolant, en discutant comme ça, on s'est dit, on pourrait l'appeler la salle Bleuet et Coquelicot. Et donc, c'est parti comme ça. Et on trouvait que le titre est très évocateur. Voilà, enfin, chouette.
Peut-être quelque chose de trouver à la fois une certaine liberté, et puis à la fois quelque chose d'être bien dans la terre.
D'ailleurs, en passant devant ce 28 rue de l'Armellerie, on peut y trouver beaucoup d'affiches sur ce, qui permettent d'être informé des ateliers, des activités et parfois même peut-être de l'information.
Alors, il y a une vitrine et donc Claire affiche tous les prochains stages qu'elle organise, les différentes choses qu'elle met en place, parce qu'elle anime aussi un groupe de pratique autour de l'écoute empathique qui se retrouve tous les mois. Je vous le dis parce que j'en fais partie. Du coup, je fais un petit coup de pub. Et elle affiche aussi toutes les programmations qui ont lieu dans la salle. En fait, l'idée, c'est que cette salle, elle soit vivante. Moi, par exemple, j'anime un atelier pendant les vacances d'avril, mais j'en ai déjà animé deux cet hiver dans cette salle. Et donc, il y a l'idée aussi de fédérer des énergies autour de ce lieu.
On peut peut-être présenter cette personne, Gaëlle Baldassari, un peu plus longuement, justement, sur ce mouvement Kiffe ton cycle, dont elle est la créatrice.
Oui, alors Gaëlle, en fait, elle s'est donné une mission, c'était de changer le monde avant que sa fille ait 18 ans. Elle a une enfant qui a, je crois, 11-12 ans maintenant. Et notamment autour de ce sujet des règles dont on a parlé tout à l'heure, autour du cycle. Et donc, en fait, c'est une entrepreneuse. Moi, Gaëlle, je la vois. Donc, je suis en lien avec elle, hein, parce que donc, je me suis formée auprès d'elle en présentiel en Bretagne. Et c'est vraiment une femme qui a énormément de ressources. Et en fait, j'ai envie de dire une battante, mais en fait, elle croit vraiment à ce qu'elle fait et elle le fait, quoi. Et donc, en fait, elle s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on parle du cycle et comment le cycle aussi peut être un allié, en fait, et qu'on revalorise le cycle menstruel. Et en fait, maintenant, elle travaille plus toute seule, elle travaille avec Anne-Laure, Rigaldo, qui est naturopathe. Et donc, à elles deux, en fait, elles animent ce mouvement. Et elles ne sont pas seules parce qu'on est, comme je vous le disais, on est 80 éducatrices menstruelles sur toute la France.
Cette proposition d'avril tendrait à se répéter aussi à chaque période de vacances scolaires, principalement.
On va.
Hormis les grandes
vacances. En fait, on va espérer que là, il y ait du mouvement, que les gens viennent en avril. Vraiment, l'idée, c'est de venir découvrir toute la proposition d'Ophélie, l'atelier Kiffe ton cycle. C'est important que les gens s'inscrivent. C'est un atelier où il y a besoin d'une inscription. Donc, il y a les coordonnées d'Ophélie. Je peux juste le dire. Voilà, je suis sa voix. il y a ce mail happy.cycle.26@gmail.com. Les autres propositions de Claire Comarmon, Fabrique ta boîte à colère, les contes et papiers découpés de Marie Pouillaud et contes et yoga donc de Virginie Cointepin, c'est sans inscription. Vous pouvez vous décider, venir. Et les participations sont financièrement relativement modestes. On a eu envie de faire quelque chose qui soit ouvert et de vraiment ouvrir, qui est de lancer la dynamique. On en est là pour l'instant.
Est-ce que, je m'adresse à Ophélie, est-ce qu'il y a un rapport ou un lien aussi avec le planning familial ou des organismes qui traitent justement des problèmes de la jeunesse?
Alors, j'ai rencontré récemment le centre de sexualité qui se trouve à Die. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore créé beaucoup de liens avec d'autres structures parce que j'avais envie de tester mes ateliers. De les mettre en place, de voir les retours. Et au vu des retours, je me dis, oui, il y a vraiment besoin. Et là, la prochaine étape, en fait, moi, c'est de me rapprocher des différentes structures qui accueillent du public. Donc, je pense aux centres sociaux, au planning familial, même ça peut être des lieux pour les femmes. Enfin, voilà, d'aller rencontrer différentes structures qui travaillent avec différents publics pour voir comment on peut mettre en place ces ateliers. Parce que l'idée, en fait, derrière tout ça, en fait, pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, c'est qu'en fait, ça devrait pas être aux usagers, aux participants, de devoir supporter le coût de l'éducation menstruelle. Pour moi, l'éducation menstruelle, elle devrait être accessible à tous. Et par exemple, moi, mon atelier là que je propose pour 3 heures, je propose un prix entre 30 et 50 euros par binôme. Donc, ce n'est pas excessif, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, l'idée, moi, c'est de pouvoir aller dans les structures et qu'en fait, on puisse profiter des accompagnements de l'État, des différentes subventions qu'il peut y avoir pour que ces ateliers soient vraiment accessibles à tous et toutes.
Les parents, Ophélie, depuis quand avez-vous commencé ces ateliers de l'éducation ou de concernant les cycles? Est-ce que vous avez des rapports avec les parents, des entretiens avec les parents, et peut-être de savoir en quoi eux-mêmes pensent nécessaire d'amener leur enfant aussi à ces formations?
Alors, quand les personnes s'inscrivent, moi, donc, je réponds en leur disant si vous avez toute question avant l'atelier, je suis vraiment disponible, on peut échanger par téléphone. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Est-ce qu'il y a une situation particulière? Est-ce que vous avez envie de me faire part de quelque chose avant l'atelier? Donc, il y a vraiment cette ouverture. Pour le moment, il n'y a pas eu besoin. Il y a eu le cas avec une personne après un atelier, où là, j'ai pris du temps. Voilà, mais en fait, moi, je suis disponible vraiment en amont et après, pour répondre aux questions, aux interrogations. Est-ce que c'est un atelier qui est fait pour ma fille ou pas? Est-ce que... Voilà, donc voilà, il n'y a pas de souci, contactez-moi avec grand plaisir.
Virginie Cointepa, vous-même avez quelques perspectives par rapport à vos activités à proposer ou à nous présenter?
Oui, donc là, il y a cette formule donc, pendant les vacances, 16 et 17 avril. Je reprendrai la proposition de parcours en balade comptée depuis le centre-ville de Die, où j'amène donc au fil des histoires et des liens entre les lieux. Je prends en écho ce qu'on voit dans la rue, les endroits où on passe, les petits passages, et je glisse des histoires autour de ça. Et on fait tout un parcours ensemble pendant à peu près une heure et demie. Ça, je le reprendrai en... Je ne sais pas si ce sera en juin ou seulement en juillet, août cette année, septembre, voilà. L'autre petite actualité, c'est que je collabore à un spectacle, ça c'est un peu autre, mais un spectacle autour de l'histoire de Didon et Aîné. Donc ça, c'est un projet plutôt musical. Je suis choriste dans une chorale et dans tout ce projet, ce beau projet autour de cette histoire de Didon et Aîné, j'ai avec Ghislain Papin, un autre conteur, une place où on vient raconter l'histoire. Voilà, donc ça c'est juste un peu parallèle et c'est juste avant, c'est le 13 et 14 avril. Voilà, c'est ce que je prépare en ce moment. Voilà.
Ophélie, il y a aussi ce site internet, hein, donc Kiffe ton cycle.
Oui, si vous voulez en savoir plus sur Kiffe ton cycle, effectivement, le site est très bien fait. On retrouve tous les programmes, toutes les formations et aussi pour en savoir un peu plus sur la philosophie de Kiffe ton cycle. Voilà, vous pouvez aller sur kifftoncycle.fr.
En sous-titre, osons le bien-être menstruel. Qu'est-ce que vous voulez exprimer sur ce propos?
Eh bien, en fait, on part du principe que plus on parle de quelque chose qui, donc, à la base est tabou, plus on va favoriser le bien-être. Donc, nous, on ne se substitue absolument pas au corps médical. Donc, dès qu'on parle de pathologie, nous, on va vraiment renvoyer vers les professionnels de la médecine. Mais déjà, être bien dans sa peau, être bien dans ses baskets, ça passe aussi par le fait qu'on puisse parler des règles, qu'on puisse parler de qu'est-ce qui se passe à cette période. Parce que quand on est en stress d'avoir une tâche, parce qu'on va se moquer de nous, en stress de ne pas avoir les bonnes protections, de ne pas oser en demander... Enfin, tout ça, ça ne favorise pas le bien-être, en fait. Donc, le bien-être, c'est pouvoir parler et pouvoir avoir des informations, des connaissances. Parce qu'il y a aussi des maladies et des pathologies qui sont liées au cycle, qui sont mal diagnostiquées ou trop tardivement, parce que, tout simplement, on n'en parle pas. Et on voit tout ce qui se passe en ce moment autour de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, je crois que c'est vraiment primordial qu'on en parle et qu'on enlève cette honte... Enfin, qu'il n'y ait plus cette honte et ce truc de c'est sale, en fait. Voilà, tout simplement. Et qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et j'ai envie de dire, on pourrait presque le célébrer, en fait.
Il y avait une tradition aussi. Alors, c'était en Inde, je crois, où le cycle était lié aussi avec les mouvements de la Lune. Qui permettait à des femmes de se positionner petit à petit dans le même rythme chacune. Est-ce que ça, c'est une chose qui est observée ou encore reconnue? Ou ça, c'est peut-être...
Non, au niveau scientifique, on n'a pas... Alors moi, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%, mais au niveau scientifique, on n'a pas de preuve comme quoi le cycle se met en lien avec la Lune. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Donc en fait, c'est dire qu'il y a tout un tas de femmes qui n'ont pas de cycle de 28 jours. Donc en fait, on ne voit pas de corrélation, comme le fait que quand des femmes habitent ensemble, leur cycle s'harmonise. Donc ça peut arriver et on va dire que le corps scientifique va dire que c'est plutôt un hasard. Voilà, après... Je laisserai chacune vivre son expérience. Et c'est aussi ça que moi, je propose dans mes ateliers, c'est-à-dire que je n'ai pas de vérité. Il y a des scientifiques qui disent ça, il y en a d'autres qui disent ça. Je pense que c'est intéressant de le regarder, de le voir. Mais il n'y a pas de vérité sur ces sujets-là. Il y a des vérités sur d'autres choses. Hein. Mais sur ça, je suis prudente. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui vivent ensemble et qui ont remarqué que leur cycle s'harmonise. Pourquoi pas ?
Après, il y a quand même symboliquement comme un miroir dans cette image de la Lune qui varie beaucoup et le cycle qui varie, qui évolue et qui fait aussi varier peut-être la manière dont on sent. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je trouve l'image jolie et peut-être elle inspire à se mettre aussi en lien avec où on en est, quoi.
Voilà. Oui, et d'ailleurs, il y a des femmes qui parlent de leurs règles en disant mes lunes. Et effectivement, il y a quelque chose, je te rejoins, hein, Virginie, sur les différentes phases du cycle. On peut y voir un miroir des phases de la lune, mais comme on peut aussi le voir dans les saisons. Parce que le cycle, il peut se découper en quatre parties, en quatre saisons, avec des énergies différentes, avec des états d'être différents. Et c'est aussi ça qu'on va aller regarder.
Ophélie Vigarier, merci. Et Virginie Cointepin, merci aussi d'être venues toutes deux. Donc, à Erdiwa pour nous parler des vacances bleues et coquelicots. Ce sera en avril, à partir du 16 avril jusqu'au 27.
Merci beaucoup Yves pour l'invitation.
Merci aussi.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.